Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc je suis là un peu chargé de faire quelque chose de spécial. Alors, je n'ai aucune prétention en faisant cela. Vraiment, c'est au Seigneur que vraiment tout revient et si possible, que vraiment la grâce de Dieu puisse reposer sur l'Assemblée, mais avant tout sur Alexis, mais sans oublier Bénédicte. Et je pense les enfants aussi, parce qu'il y a des choses à vivre tous ensemble en famille et nous sommes appelés à être des témoins. Je voudrais simplement déjà dire aussi que si je suis là, ce n'est pas la première fois, maintenant ça fait la troisième depuis ce début d'année. En Aquitaine, il y a eu trois installations à Angoulême, à Bergerac et voici celle de Pau. Il y a un peu de renouvellement ici en Aquitaine. Alors bon, Dieu veut les choses ainsi. Apparemment, il y a besoin d'un vent nouveau pour être porté sur des ailes spéciales, je ne sais pas. En tout cas, puisse le Seigneur faire son œuvre en Aquitaine, je pense qu'il y a des belles choses à vivre. Et je pense qu'avec cette nouvelle équipe, finalement, ben, il y a de très, très belles choses à vivre. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. J'ai une délégation de Orthez aussi qui est venue spontanément. Alors, merci d'être à mes côtés aussi pour accompagner Alexis, Bénédicte et l'Assemblée ici. Je voudrais aussi, tout simplement, parce que tout ça, ça a de sens que si le Seigneur est vraiment au centre, remettre ces instants de méditation de la parole dans les mains du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être rassemblés sous ton regard. Seigneur, tu conduis les choses de manière parfois un peu bizarre, mais tu fais en sorte que nous puissions vraiment être à ton écoute, quand bien même cela bouscule un peu nos habitudes, quand bien même parfois cela change un peu notre vie, mais nécessairement. Puisses-tu par ton esprit encore ce matin, et grâce à ta parole aussi, nous conduire et nous instruire pour être davantage encore à l'écoute de ta volonté. Merci de bénir ces instants, qu'ils soient vraiment pour ta gloire. Amen. Comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour cet événement de l'église de Pau, en Aquitaine, en France, dans le monde. Mais j'ose peut-être dire ces mots-là parce que j'y reviendrai. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quelque part, ce ministère, comme Jésus l'a eu lui-même, comme Jean-Baptiste et combien de prophètes, parfois ils ont été pris derrière un troupeau, je pense à Élisée. Parfois ils ont été bien loin de comprendre toute la tâche qui est leur incombée. Et pourtant Dieu les a voulus au centre d'un peuple, au centre d'un groupe, au centre du monde, pour faire en sorte que ce monde change. Et je pense que c'est ça aussi, déjà, entendre la parole de Dieu. Ce monde doit changer. Tôt ou tard, il changera. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole va toujours demeurer. Alors c'est vrai que ce monde est appelé à changer. Mais là où nous sommes, comme quelqu'un, je l'ai entendu dire, même si nous sommes dans un endroit peut-être un peu perdu sur la terre, où nous sommes peut-être isolés, même dans cet endroit, nous pouvons faire changer quelque chose, même si c'est peu de choses. Mais puissions-nous participer à ce changement. Aujourd'hui, Alexis a déjà parlé de sa sensibilité, de son appel, et je pense que c'est important de montrer qu'effectivement, il y a une personne qui, à un moment donné, a été sensible, touchée dans son cœur pour suivre la parole, suivre le Seigneur. Et puis tout à l'heure, nous allons entendre Alexis avec ses engagements personnels dans le ministère et au sein de l'Union des Églises évangéliques libres, au sein de la Fédération protestante de France, enfin, vous voyez. Mais je ne voudrais pas faire porter à Alexis seul, à lui seul, toute la charge qui est celle d'assurer le ministère. Et c'est pourquoi ce que j'ai à dire ce matin en particulier va toucher peut-être, j'espère bien, Alexis, Bénédicte, qui sont les premiers concernés en étant ici. Mais au-delà d'eux, c'est toute l'Assemblée. Et même au-delà de cette assemblée, c'est tous ceux qui peuvent, dans une assemblée représentée peut-être ici, être en mesure de parler de Dieu, de l'exprimer, d'exprimer son amour et sa grâce. Alors je ne voudrais pas que, justement, on réduise de trop ce ministère à une personne. Déjà dans l'Église, ici, ailleurs, en général, il y a des personnes autour. Il y a ici, par exemple, le Conseil d'Église. Je suppose que c'est un appui pour le ministère pastoral, et d'ailleurs il s'engage aussi, ce conseil, à être au service de la communauté, dans un ministère. Au-delà de cela, il y a parfois des ministères, des dons qui sont manifestés dans une communauté. Il peut y avoir celui du chant, mais combien d'autres dons et d'autres ministères peuvent apparaître? Vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas? Peut-être qu'il y en a qui n'attendent que d'être révélés. Et je pense que Alexis va y travailler. Il est là aussi pour ça. Faire en sorte que dans l'Église, effectivement, on puisse être à l'écoute de Dieu, qu'on ne centralise pas toutes les choses vers une personne, mais que toute personne qui a reçu l'appel de Dieu se sente à un moment donné concernée par un service. Je dis cela d'autant plus, non pas parce que je suis là et parce que c'est l'installation, mais parce qu'au sein de l'Union des Églises libres, il y a quand même, depuis quelques années, tout un cheminement qui conduit à repenser le ministère pastoral, repenser le ministère des Églises. Depuis le dernier synode, qui a eu lieu donc il y a 2 ans, il y a eu un thème qui a été développé, qui était d'oser le développement, avec 2 notes, celle de l'implantation, de la revitalisation. Revitalisation des églises, implantation de nouvelles églises. Et cela ne concerne pas que les églises évangéliques libres. Dans d'autres communautés, même catholiques, il y a ce désir d'implanter, de faire en sorte que le message puisse encore être se renouveler dans le monde dans lequel on est, dans la France dans laquelle on est. Cette année, le synode va conduire aussi encore à oser le développement, une même reprise du thème premier, mais avec une petite note, celle de penser à de nouvelles formes de ministère. Un deuxième volet à cette réflexion qui se passe au sein de notre union. Et je pense que c'est important pour nous et pour vous aussi de penser, de repenser, de réviser la notion de ministère, ministère pastoral, mais au-delà, ministère dans l'Église. Alors c'est pour ça que, parce que Alexis n'est pas le seul concerné, que tout le monde peut être concerné en matière de ministère, de service, eh bien j'ai pris un texte sur lequel je voudrais m'appuyer, qui est pour moi l'un des messages d'envoi de Jésus à ses disciples, mais qui nous est encore adressé à nous au XXIe siècle. Ce message, Jésus a été conduit à le produire alors que des foules venaient vers lui, couraient après lui, s'agglutinaient et faisaient en sorte d'être dans l'attente, montrant qu'effectivement il y avait quelque chose de nouveau, si possible, à vivre. Je lis ce texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 25 au chapitre 5, verset 2, et un peu plus loin, versets 13 à 16. Chapitre 4, verset 25, et le début du chapitre 5, situe justement l'enseignement que va donner Jésus. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien, c'est-à-dire en fait de tous les environs connus du territoire d'Israël. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit et ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Et plus loin, au verset 13, il dit ceci: « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Vous avez entendu un peu ce contexte dans lequel se trouve cet enseignement, ces foules qui cherchent à tout prix à suivre Jésus et qui sont certainement un peu affolées par ce qui se passe dans leur vie religieuse du moment, dans l'espace politique aussi de cette période. Elles ne savent guère plus vers qui se tourner. Puis voilà qu'il y a un personnage spécial qui passe par là, mais qui semble dire des choses différentes. Et voilà qu'ils se mettent à le suivre. Et je pense que si nous sommes réunis ici aussi,
et Alexis Bénédicte à ses côtés, nous sommes aussi comme ses disciples de la première heure. Nous sommes en demeure d'entendre qu'il nous revient une charge particulière. C'est d'œuvrer pour que des foules, comme il est dit dans le texte, voient le bien que l'on fait et qu'elles en attribuent à la gloire à notre Père céleste. Encore une fois, Jésus n'a pas peur des mots. Ça semble un peu ambitieux d'entendre ce genre de choses. Il parle dans ce texte de celle de la terre, de lumière du monde, et que les foules voient le bien que l'on fait. Une question, quelle vue portons-nous sur l'Église que nous représentons, sur le ministère que nous pouvons exercer, sur ton ministère, Alexis? Est-ce une vue minimaliste ou au contraire, du genre de ce que Jésus suggère à ses disciples? Une vue sur le monde, sur la terre, être vu. C'est vrai qu'au cours des siècles, l'Église n'a pas toujours été à la hauteur de la tâche qu'on lui attribuait ou qu'elle s'était attribuée. Aujourd'hui encore, on voit bien qu'il y a quelques mauvaises expériences, mauvais témoignages qui créent du trouble. Comme on l'a chanté, nous sommes des êtres fragiles, des vases d'argile. L'Église est marquée par cette fragilité. Et la parole de Dieu n'est pas là pour cacher cette fragilité. Mais j'entends aussi que dans la parole de Dieu, il n'est pas mis que l'accent sur cette fragilité. J'entends que l'Église est le corps du Christ. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela représente. Je pense que la plupart d'entre vous l'imaginent. Vous êtes le corps du Christ. Jésus en est la tête. Jésus est la lumière du monde. Et l'Église est désignée aussi pour être la lumière du monde. Et ce n'est pas une affaire de prétention, de mise en avant orgueilleuse, mais d'une obéissance, tout simplement, et d'une humble obéissance, où il n'est pas question de mérite. Et d'ailleurs, tu as cité tout à l'heure dans ton témoignage ce texte d'Éphésiens 2, et je voulais renouveler ce texte. Alors peut-être qu'il fallait encore appuyer. Parfois, on a quelquefois le désir de rester un peu encore attaché à des domaines terrestres. Peut-être c'est une envolée supplémentaire pour toi. Un lâcher-prise supplémentaire, je ne sais pas. Mais ça revient à chacun. Paul a effectivement dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Que c'est le don de Dieu, que personne ne puisse se vanter. Que c'est lui, Dieu, qui nous a fait, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Aucun mérite, effectivement. C'est la grâce de Dieu pour la gloire de Dieu. Nous n'avons donc pas honte à oser dire que nous voulons être vus. Il s'agit de mettre en avant la grâce de Dieu. N'ayons pas peur des mots. Peut-être qu'il convient de les apprivoiser, de se familiariser, de les travailler. Ces derniers temps, j'ai été conduit à parcourir le livre, j'en ai déjà parlé à chaque fois que je peux, j'en parle, de Nicolas Fouquet, que vous connaissez peut-être. Ils ont aimé leur prochain. Ce livre a une préface de Denis Mukwege, vous connaissez ? Tant vous en avez entendu parler à la télévision. Prix Nobel de la paix cette année. Denis Mukwege, c'est un chrétien engagé en République démocratique du Congo pour aider des femmes qui ont été victimes de guerres fratricides. Il est gynécologue et il travaille comme chirurgien pour aider toutes ces femmes qui ont été victimes de ces guerres. Denis Mukwege donc a tenu à rédiger une préface à ce livre. Ils ont aimé leur prochain pour souligner combien justement il y a dans ce monde beaucoup de prochains, parfois ignorés, mais dont l'Église a besoin de regarder leur misère, leurs difficultés, pour les aider. Dans ce livre, 30 personnes ont été sélectionnées par l'auteur Nicolas Fouquet depuis le IVe siècle jusqu'à aujourd'hui, pour illustrer justement des œuvres dont l'Évangile parle et qui ont contribué à entretenir une vision, si possible, différente de la vie. Et des changements ont pu s'en suivre après ces témoignages. Au IVe siècle, par exemple, Martin, évêque de Tours, qui avait le cœur sur la main, a déchiré sa tunique pour couvrir un démuni. Il a ensuite fondé des monastères en France avec cette sensibilité d'apporter de l'aide aux plus pauvres. William Wilberforce, à la charnière du XVIIIe, XIXe siècle, lui, par sa foi et son action politique de député, a conduit à faire voter le 25 mars 1807 l'acte d'abolition de la traite des esclaves en Angleterre. Il a même cherché de l'aide auprès de John Newton, pasteur anglican, qui a rédigé ce fameux chant « Amazing Grace » que vous connaissez. Il y a beaucoup de personnes qui sont citées, connues, moins connues, parmi les connues Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, qui a fait des rêves, notamment un. Et puis il y en a d'autres moins connus, comme Jackie Pullinger, toujours en activité, au sein d'une mission qui a commencé à Hong Kong et qui se poursuit aujourd'hui aux Philippines. Sa mission ? Aider des personnes victimes de prostitution et d'une pauvreté extrême dans une enclave chinoise sous domination mafieuse. Parfois aussi, conduite à lutter contre les églises bien-pensantes occidentales qui ne voyaient pas ce genre de mission d'un très bon œil, voire même inutile, du fait que l'église est pour les gens respectables, voyons. Beaucoup de fléaux sont encore dans ce monde et réclament une action de personnes, d'organisations, afin que ce monde change un peu. Beaucoup de personnes, finalement, attendent une action personnelle. Parfois, c'est en tant que parent renouvelé, en tant qu'acteur de cette société, en tant que conducteur d'église, en tant qu'église tout court, puisque, je vous le rappelle, corps du Christ, lumière du monde. Dans ce livre, il y a une page vierge pour écrire, si vous l'achetez, et je n'ai aucune commission, votre amour, pour écrire votre amour du prochain. Aujourd'hui comme hier, il est question d'œuvre de la part de celles et de ceux qui ont entendu et reçu l'appel de Dieu dans leur cœur. D'œuvre qui frappe les regards, qui frappe les regards. D'action qui réclame d'oser dire et oser faire. Alors je nous invite donc, chacun, chacune, à entendre encore et encore le message que Jésus a adressé à ses disciples, alors que des foules cherchent à qui se raccrocher. Les foules qui sont là devant Jésus le poussent à réagir et à faire réagir ses disciples. Et Matthieu nous propose à notre tour d'entendre et d'observer, de réagir et de faire réagir, de nous lancer dans la bataille pour parler de justice et de royaume de Dieu. Dans cet enseignement que Jésus nous laisse, il est fait mention du sel, de la terre, de la lumière, du monde, et d'une exhortation à ce que le sel ne perde pas sa saveur, que la lumière ne perde pas sa luminosité. Être sel, être lumière. Connaissez-vous Dietrich Bonhoeffer ? Je vous encourage à le connaître si vous ne le connaissez pas. Mort malheureusement à 39 ans, trop jeune, dans un camp nazi, pendu au moment où les peuples pouvaient prétendre à la libération en 1945, en mai 1945. En dépit de sa jeunesse, il a assuré un ministère pastoral, il a écrit des livres, il a été même dans plusieurs pays. Il a fait en sorte de montrer que quelque part, la grâce de Dieu était vraiment quelque chose de précieux. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le prix de la grâce ». Curieusement, le prix de la grâce. Et dans ce livre, il fait entre autres un commentaire du Sermon sur la montagne, donc entre autres ce texte que j'ai lu tout à l'heure. et pour mettre un peu l'accent sur un point, sur un, si je puis dire, un éclairage sur ce sel et cette lumière. Voilà ce qu'il dit. Dans ce texte, il n'est pas dit « vous devez être le sel » ou bien « vous devez être la lumière », comme si cela dépendait des disciples eux-mêmes, comme s'ils devaient faire un effort personnel pour devenir sel et lumière. Mais il est dit « vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Et Jésus désigne ses disciples comme des pouvoirs salants et des flambeaux, en leur rappelant l'appel qui les a conduits à être devant lui. Dietrich Bonhoeffer dit aussi, il n'est pas dit non plus, vous avez le sel, vous avez la lumière, parce que le risque serait d'opérer une réduction en s'attachant davantage à un contenu limité, à une prédication peut-être, à une façade, qu'à l'être lui-même. Parce que la prédication des disciples, c'est quoi ? C'est leur existence tout entière. C'est vous-même. Avec ceci, nous devons entendre que l'Église aussi n'est pas que le pasteur. C'est un corps composé de membres. Entendons aussi que l'habit ne fait pas le moine, si vous permettez, que l'on ne se cache pas derrière une structure, des ministères ou des dons. Je pense entre autres, à l'Église de Corinthe. Au tout début, il est dit « c'est l'Église de Dieu ». Il est dit qu'elle avait tous les dons. Elle pouvait prétendre à se réjouir d'avoir bénéficié de beaux ministères, d'un Apollos, d'un Pierre, d'un Paul. Mais la mise en avance de ces beaux ministères, de ces dons, de cette identité spéciale qui est indiquée, ne garantit pas le message que Dieu attend de son Église. Combien de problèmes a-t-elle connu, de défaillances ? La parole de Dieu n'est pas là pour nous les cacher, pour nous montrer combien nous sommes en mesure de défaillir dans le ministère, dans le service que Dieu attend de son Église, mais aussi de se reprendre. Ne pas se cacher derrière une façade. Chacun est en mesure de se laisser transformer, comme dira Paul dans sa lettre aux Romains, transformé dans son intelligence et donc dans son être, pour justement, comme disait Jésus, rester le sel et la lumière attendue. Et dans le ministère, s'il y a ministère reconnu, et aujourd'hui dans ton ministère, à partir du moment où on le reconnaît, soyons le sel et la lumière que Dieu attend de nous, attend de toi. Ne nous sous-estimons pas trop facilement, sous prétexte que peut-être la religion ne serait plus guère à la mode, ou serait tellement en décalage par rapport à ce qu'on attend d'elle, ou ce qu'on attend de la vie, qu'elle serait même minoritaire, que l'effort semblerait trop important à l'échelle du monde. Denis Mukwege, qui a, je le rappelle, écrit la préface du livre dont j'ai parlé, a écrit ceci. Notre monde est dans l'impasse. Les crises financières et humanitaires se succèdent et provoquent toujours plus d'inégalités. Des populations entières sont dans la détresse, forcées de fuir la violence, les persécutions et les guerres. Les capacités d'accueil du monde et de l'Église sont mises au défi par les crises migratoires provoquées par toutes sortes de conflits. Face à ces immenses défis, les chrétiens doivent-ils se replier sur eux-mêmes et rester dans l'immobilisme, dans l'attente du retour du Christ ? Face à notre monde, en proie à la violence, l'injustice, la famine, quel devrait être le rôle prophétique de l'Église ? Que peuvent faire les chrétiens pour tendre vers la liberté, la justice, la paix et la solidarité dans un monde défiguré ? Jésus a vu des foules accourir à lui, de tous horizons, depuis la Galilée jusqu'à la Judée, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest du Jourdain. Il avait à ses côtés une petite troupe et il l'a enseigné, nécessairement. Et il a fini par leur dire, Matthieu 7, versets 24 et suivants, « Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Aujourd'hui encore, il est question de saler et d'éclairer, parce que nous avons pu entendre que nous sommes sel et lumière. Alors, Église et croyants de peau, soyez sel et lumière. Alexis, veille à ce que ce sel ne perde pas sa saveur, que cette lumière continue à bien éclairer. Et j'ajoute cette parole de Paul à Timothée, 2 Timothée 4, 2. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage aussi par ton enseignement avec une patience inlassable. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Encore une fois, merci Seigneur pour ta parole qui ne change pas de ton, qui demeure encore tellement actuelle. Donne-nous, Seigneur, pour les uns les autres, de chérir ta parole, de chercher à entendre encore ces paroles qui dérangent comme ces paroles qui encouragent, afin que nous soyons toujours plus à même de te servir selon ta volonté. Permets que, oui, cette parole soit toujours cette lampe sur le sentier sur lequel nous marchons. Tortueux, difficile, étroit, merci pour cette lampe que tu nous donnes. Amen.